Vous savez, dans notre programme d'église, on est rendu au dernier dimanche de notre programme d'été. Et pendant l'été, on a fait une série sur les psaumes. Et donc, on va considérer un dernier psaume ce matin, le psaume 13. On a vu dans les psaumes, il y en a 150 dans le recueil, dans l'Ancien Testament, dans la Bible. Et on a vu que ce recueil, il parcourt toute la vie de la personne chrétienne, toute sa vie de prière, en quelque sorte. Oui, ça se termine, les cinq derniers psaumes se terminent dans la louange. Il y a comme une explosion de louange dans les cinq derniers. Mais ça commence, on a vu, avec l'apprentissage de la sagesse à partir de la parole de Dieu, apprendre à bien vivre sous le regard de Dieu, dans l'obéissance et la crainte. Et c'est dans cette façon de vivre, cette attitude devant Dieu, que nous apprenons à le louer comme lui veut et à nous réjouir en Dieu d'une façon vraie, profonde et durable. Entre les deux, il y a toutes sortes de choses. On a vu, par exemple, un psaume de confession, et il y en a plusieurs dans le recueil des psaumes qui nous guident dans venir devant Dieu avec la confession d'une faute qu'on reconnaît. Et il y a d'autres confessions aussi, c'est « Seigneur, pardonne-moi mes fautes cachées ou mes fautes inconscientes ». Donc, on avait vu le psaume 51 dans cette catégorie-là. Mais on a vu aussi des chants de louange, des psaumes de louange, certains qui célèbrent la nature. On s'est beaucoup délecté là-dedans parce que c'était l'été. Et au Canada, on a comme l'impression que la nature explose de gloire en été. Mais il est vrai que l'hiver est beau aussi. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu Plume la Traverse, mais lui, il disait « Il fait pas chaud, mais l'hiver, il est beau. » Mais en été, il y a une explosion et on a célébré ça ensemble. Puis, on a vu également des psaumes messianiques, un en particulier, le psaume 2. Puis, avec Michel Houle, il y a quelques semaines, un psaume de louange pure, le psaume 100. Et j'espère qu'à travers tout ça et ces différents types de prières dans le recueil, vous pouvez utiliser les psaumes dans votre vie de prière et vous êtes peut-être à différents moments dans votre vie de prière. Et simplement en les lisant à votre Dieu, de manière méditative, soit silencieusement ou à voix haute. Vous pouvez le faire à la maison. Et il y a des églises aussi qui le font ensemble. Ils vont lire ensemble. Nous l'avons fait une fois, je pense, cet été. Ça serait bien de le répéter, cet exercice de réciter, de lire ensemble un psaume. Ils sont là pour nous aider, inspirés de Dieu, pour nous inspirer dans la prière. Et aujourd'hui, c'est le psaume 13 qu'on va méditer dans un esprit de prière. Et celui-ci fait partie d'une autre catégorie, les psaumes de lamentation. C'est quoi une lamentation? Eh bien, on peut dire que c'est un cri de souffrance. Un cri de souffrance, il peut être rempli de tristesse, de larmes, ou de frustration, ou de questionnement, ou de découragement. Plus de la moitié des psaumes sont des psaumes de lamentation. Et ça indique qu'il est normal pour un enfant de Dieu, pas juste de louer, mais aussi de se plaindre, de se lamenter, d'exprimer sa souffrance. Toi, quelle est ton expérience? Toi, dans ta prière, Est-ce que tu es 100% dans l'adoration et la louange? Tu peux lever la main. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Est-ce qu'il y en a qui sont aussi dans la lamentation? Je vois une main. Je vois quelques mains. Il y a quelques mains. Est-ce qu'il y en a que c'est les deux? Il y a de la lamentation, il y a de la louange. OK. OK. Alors, vous voyez de quoi je parle, mais ce que le recueil nous dit, c'est certainement OK avec Dieu de venir à lui avec nos lamentations. Dans la vie, il y a beaucoup de souffrances, beaucoup de déceptions. C'était vrai dans le temps de la Bible, c'est vrai aujourd'hui. On attend pour la résolution de nos problèmes. Peut-être qu'en ce moment, tu es en train d'attendre pour la résolution d'un gros problème. Dans ces situations, on peut parfois avoir des questions s'intégrer dans nos prières. Des grosses questions comme « Pourquoi? Pourquoi, mon Dieu, est-ce que tu tardes à me répondre? » Comme il y a des psaumes de lamentation individuelle et aussi collectif, on peut remplacer le « je » par le « nous ». Pourquoi est-ce que tu tardes à nous répondre? Mon Dieu, est-ce que tu entends vraiment mes prières? Est-ce que tu m'aimes vraiment? Es-tu vraiment là? Comme dans nos vies, les souffrances dans le temps de la Bible qui sont exprimées dans ces psaumes-là sont vraiment variées. La maladie, la vieillesse, l'abandon, la trahison, l'accusation, parfois une fausse accusation, un procès, une dépression, un danger, une persécution, un complot contre moi, un péché personnel, un péché collectif, un exil, déportation, migration, guerre, invasion, famine, sécheresse, épidémie. En avez-vous assez? Il y en a d'autres. J'espère que ça ne te décourage pas, mais plutôt que ça t'encourage. La situation des enfants de Dieu était difficile à cette époque-là. Elle l'est encore aujourd'hui. Et nos frères et sœurs de cette époque ne se retenaient pas pour venir devant Dieu avec leurs complaintes. Et tu peux le faire aussi. Et je dirais que Dieu aime ça. Mais Dieu n'aime pas que tu vis une souffrance, que tu vis un problème. Mais il aime que tu viennes à lui avec ta souffrance. Et il est capable de prendre ça sur lui. C'est-à-dire, il a le dos large, il est capable d'entendre tes plaintes. Et même, vous verrez, dans le psaume, il y a presque des critiques de Dieu dans le psaume. Il est capable d'en prendre. C'est vrai que nous croyons à un Dieu puissant, non seulement pour entendre nos prières, mais pour y répondre et pour faire des prodiges. Il veut combler tes désirs s'ils sont légitimes. Mais ce qui est important, et c'est ça qu'on va voir ce matin, dans ce psaume en particulier, bien souvent, au lieu de répondre tout de suite ou de résoudre le problème tout de suite, Dieu va me faire passer par une période de silence, un silence de sa part. Et pendant ce silence, il m'invite à venir à continuer de prier. Moi, je parle et lui, me semble-t-il, reste dans le silence. Mais ce qui est important, c'est que ce silence fait partie de son travail dans ma vie. Et je vous dis d'avance ce qui va être la conclusion et je vous invite à la retenir. Durant ma vie de prière, le silence de Dieu ne doit pas me décourager. C'est un silence qui me fait grandir. Donc, dans ma vie de prière, le silence de Dieu ne doit pas me décourager, c'est un silence qui me fait grandir. C'est la dynamique qu'on découvre dans le psaume 13. Et on va le lire ensemble maintenant. On va y aller direct parce qu'on a déjà prié pour que Dieu nous donne cet esprit de prière et de réception de sa parole. Lisons le psaume 13. Il n'est pas long. Soyons bien attentifs. Au chef de cœur, psaume de David. Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme? Et chaque jour, des chagrins dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi s'attaquera-t-il à moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu. Et mes adversaires pourraient se réjouir en me voyant ébranlé. Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. Amen. C'est pas long, mais c'est tout un psaume. Alors, pour creuser un peu dans la profondeur de ce psaume, on va commencer par la fin, le dernier verset qui est encore devant vous, le verset 6, et qui nous montre que la prière de ce psalmiste troublé, accablé, sa prière se termine par la louange. Il dit, « Moi, j'ai confiance en ta bonté, j'ai de la joie dans le cœur à cause de ton salut. » Je veux chanter en l'honneur de l'Éternel, car il m'a fait du bien. C'est intéressant parce que le mot salut, c'est juste un détail que j'ai remarqué, c'est Yehoshua, et qui est aussi le nom de Jésus. Jésus veut dire salut. Jésus qui est notre salut à bien des niveaux. Et nous qui connaissons Jésus, parce que le psalmiste ne l'avait pas encore connu en tant qu'homme, même. En tout cas, c'est merveilleux qu'on peut se réjouir en Jésus. Mais de toute façon, le psalmiste sait, et nous savons, que nous avons un Dieu puissant, actif, personnel, aimant. Il entend nos prières et il va répondre. Un Dieu pour qui rien n'est impossible. Tantôt, on va célébrer le repas du Seigneur. C'est une commémoration de quoi? Vous le savez. Commémoration de la mort de Jésus, notre Seigneur. Mais c'est aussi un rappel de sa résurrection. Dieu l'a fait sortir du tombeau. Amen. Quel miracle! Quelle puissance! Notre foi, elle est basée sur cette conviction que dans tous nos problèmes, Dieu va agir avec puissance, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Et notre vie de prière est basée sur cette certitude. Comme le psalmiste d'autrefois, et il termine sur cette note, « J'ai confiance en ton salut », c'est-à-dire ton intervention de puissance dans ma situation. En même temps, si on revient à se souvenir de la mort de Jésus, pensons à ses disciples. Ils ont prié pendant toute la semaine de sa passion, une semaine terrible. Et oui, c'est vrai, au dimanche de Pâques, ils ont vu la main puissante de Dieu, mais dans les jours qui précédaient, c'était le silence de Dieu auquel ils se heurtaient. et leur prière venait frapper cette fatalité, ou ce qui semblait être une fatalité, Jésus cloué à la croix. Le samedi de Pâques, le samedi saint, est là pour nous rappeler quelque chose. Ses disciples, durant ce samedi saint, avec aussi Marie et d'autres femmes, c'était un samedi de silence total. Jésus dans le tombeau, enveloppé d'un linceul, le ciel silencieux, les ennemis de Jésus et des disciples victorieux, satisfaits, la vie à Jérusalem qui reprend tranquillement comme si de rien n'était. Il y a aussi ce samedi-là, et je peux imaginer ses disciples en train de se dire, même si je voulais prier, je ne saurais même pas quoi demander. Et donc, voilà ce qui est puissant et beau dans ce dernier verset du psaume 13. C'est que même durant ce samedi, c'est-à-dire même durant cette période du silence de Dieu, même avant de voir la main de Dieu en action, je peux me mettre comme le psalmiste, par la foi, à remercier Dieu d'avance pour l'exaucement que je ne vois pas encore. Et peut-être il va être différent que ce que j'imagine. Peut-être pas. Je peux me mettre aussi à adorer Dieu pour qui il est, dans cette confiance qu'il va se manifester au moment voulu de la meilleure manière possible. Alors, toi aussi, tu peux, dans ta prière de lamentation, dans ton problème qui n'est pas encore résolu, à l'avance, adorer, à l'avance, remercier. Je t'invite à essayer. On va regarder un peu plus profond maintenant et on va aller au début du psaume, les premiers versets. C'est cette complainte elle-même sur laquelle commence le psaume. Mais je pense que dans la prière, ça montre que prier, c'est crier à Dieu qu'est-ce qu'on a dans le cœur. C'est ça, on peut dire, la définition de la prière. Et si c'est de la souffrance, si c'est de la révolte, si c'est du découragement, tu peux commencer avec ça. C'est bien correct. Dieu est là. Il y a une question dans le psaume qui est répétée 4 fois. Je ne sais pas si vous avez remarqué qu'il y avait une question. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand est répété 4 fois? 3 fois? C'est dit une fois plus 3, ça fait 4. Mais c'est quand même beaucoup. Jusqu'à quand? Ce jusqu'à quand se réfère à l'accablement émotionnel causé par le problème que vit la personne qui prie ici. Et c'est peut-être David lui-même. Ça fait partie du recueil de David, nous dit le premier verset. Mais peu importe. L'accablement est en train d'affaiblir la personne. C'est-à-dire que la personne qui prie est en train de s'inquiéter pour elle-même. Seigneur, tu vois les soucis qui sont en train de me ronger à l'intérieur. Qu'est-ce que je vais devenir? Jusqu'à quand? Ce jusqu'à quand se réfère aussi à l'impact spirituel du problème. Seigneur, j'ai le sentiment que tu me caches la face. Je continue de prier, mais j'ai l'impression que tu ne veux même pas m'écouter. Hein, tu me détournes la face. Jusqu'à quand est-ce que je vais vivre ce sentiment? Peut-être que ça peut t'arriver, que tu t'inquiètes pour ta propre relation avec Dieu. Qu'est-ce qui va m'arriver si je continue d'avoir ce sentiment? Jusqu'à quand, Seigneur, vas-tu me laisser avec ce sentiment? Puis, il y a les ennemis qui sont mentionnés aussi. Les ennemis, bon, c'est peut-être pas des ennemis dans les rapports de tous les jours, mais c'est des ennemis dans le sens, c'est des gens qui refusent Dieu. Et peut-être que ce sont des gens qui font la promotion de l'idée que Dieu répondra pas, et peut-être Dieu existe même pas. Peut-être à ton travail, tu as autour de toi des gens avec qui tu as des relations très cordiales, mais tu te dis, mais peut-être par leur opinion au sujet de l'existence de Dieu, ce sont, dans un sens, ils sont du côté des ennemis de Dieu. Et s'ils savent que tu pries, puis ils voient que ton problème ne se résout pas, ça va les confirmer dans leur erreur, dans leur fausse opinion, comme quoi Dieu n'existe pas, ou en tout cas s'il existe, on ne peut pas compter sur lui. Jusqu'à quand, Seigneur, est-ce que tu vas accepter cet état de situation? Défends ma cause, mais défends ta cause, Seigneur. Et ça, c'est une prière qui est fréquente dans les psaumes et dans tout le Nouveau Testament. Réponds à ma prière, mais pour l'honneur de ton nom, Seigneur. On pense à Moïse et on va revoir ça parce qu'on va commencer une série bien éternelle pour l'honneur de ton propre nom. Je sais que le peuple hébreu est en train de te frustrer, Seigneur, mais sauve-les, mais pour l'honneur de ton nom. Cette prière du jusqu'à quand peut s'appliquer dans nos vies à différents niveaux, dans différents types de prières que nous prions. On peut penser à ton intercession pour une personne chère qui s'est éloignée du Seigneur. Et peut-être que ça dure depuis longtemps. Peut-être que tu pries pour la guérison d'une maladie chez toi ou chez quelqu'un d'autre. La prière pour sortir d'une situation financière impossible. Ta prière pour sortir d'une situation d'injustice. Ta prière pour trouver un conjoint ou une conjointe. Un autre domaine où le jusqu'à quand peut entrer en jeu, c'est la prière missionnaire. Et Cheval et moi, on est impliqués dans, et d'autres aussi, dans la prière missionnaire pour un pays, le Yémen. En fait, on prie pour le pays où il y a une guerre civile qui semble interminable. Enfin, interminable. Depuis 2014, quand même. Mais c'est terrible, un pays déjà pauvre qui est paralysé, qui est ramené en arrière par la guerre. On prie pour la mission, on prie pour la paix, pour le Yémen. Ça peut être vos prières pour le réveil au Québec, la fin de la violence au Congo, en Palestine, en Ukraine. Le retour de la sécurité en Haïti. Voilà une photo d'une femme, et je crois que cette photo, elle vient d'Haïti. Et on peut imaginer cette femme en train de prier le psaume 13. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Cette prière nous montre que les psalmistes persistaient dans la prière, dans le temps, dans le silence de Dieu. Il ne faut pas abandonner nos efforts de prière. Et ça, je trouve ça difficile quand on prie pour un pays, par exemple. Ça serait presque compréhensible de dire, mais j'ai prié pour le Yémen pendant 4 ans. À un moment donné, je me suis tanné parce que la guerre continuait. L'Église ne prenait pas d'ampleur. Mais on voit que c'est la persistance qui porte du fruit. Et Dieu travaille dans mon cœur d'intercesseur. Et en plus, il y a un tournant dans mon cœur qui peut venir. Et moi, je voudrais vous parler du milieu du psaume maintenant. Donc, on a parlé de la fin, la louange, le début, la complainte, le jusqu'à quand. Au milieu du psaume, il y a un tournant, un début de tournant. Oh, bravo! Oui. Élie est là, je ne suis pas inquiet. Il y a un tournant à partir du verset 4. La psaume, la prière du prieur ici devient ceci. Regarde, réponds-moi, éternel mon Dieu. Donne la lumière à mes yeux, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort. En effet, mon ennemi pourrait dire, je l'ai vaincu. Et mes adversaires pourraient se réjouir en me voyant ébranlé. Le tournant, c'est que le psalmiste passe de la lamentation à la demande de foi. C'est un petit changement, mais qui veut dire une grande chose. Il y a comme eu un déclic dans son esprit, comme un flash de lumière qui dissipe la brume qui apaise son âme, ou qui accable son âme. Au début, la prière, c'est des questions, et maintenant, on sent qu'il y a de la conviction. Il y a des cris. C'est presque comme s'il donnait des ordres à Dieu. On ne peut pas donner des ordres à Dieu, mais on peut prier avec conviction. Et c'est ce qu'il fait ici. Son « Jusqu'à quand me cacheras-tu sa face ?» devient tout d'un coup « OK, là, Seigneur, je vais te regarder en face et te demander, regarde ma situation, réponds-moi. » Voyez-vous la différence? Son « Jusqu'à quand les soucis vont me ronger, me descendre vers la noirceur ?» devient « Seigneur, c'est le temps, donne-moi de la lumière et de la motivation. Rends-moi à la vie. » Jusqu'à quand les incroyants vont croire qu'ils ont raison et que moi j'ai tort, devient tout d'un coup, « Seigneur, c'est le moment d'agir et de défendre ton honneur. » Et parfois dans cette période de déclic, le Seigneur va te dire, « Toi, agis. » Je lisais le témoignage d'un pasteur qui visitait quelqu'un à l'hôpital et cette personne était accablée par son diagnostic. Elle était dans sa chambre d'hôpital, le pasteur priait avec elle et tout d'un coup, alors qu'elle priait aussi pour sa guérison à elle, elle a comme eu ce flash, ben, je vais commencer à prier, à témoigner pour l'autre madame qui est dans le lit à côté de moi. Et c'est, donc, voyez-vous que des fois, dans la prière, on peut commencer à vivre ce déclic de la foi en nous-mêmes, en nous mettant en action. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide dans cette direction. Comment est-ce qu'on peut recevoir ce déclic? Bien, il n'y a pas de recette magique, mais c'est un cadeau de Dieu. Il va agir en son temps. Il va te donner cette transformation dans la forme de ta prière parce que tu sens que Dieu est là et qu'il va agir. Dieu nous promet que si nous persévérons, dans la prière, si nous croyons à sa grâce, si nous revenons à sa parole et aux vérités de sa parole, si on est ouvert à ce que le Saint-Esprit nous chuchote, sa grâce va faire quelque chose en moi, en toi, en nous. J'aimerais vous montrer l'exemple d'un autre psaume de lamentation où il y a un déclic, et peut-être que vous allez pouvoir le voir avec moi. Lisons ce psaume, ou cette partie de psaume, et dites-moi, est-ce que vous voyez un changement au milieu du texte? Moi, j'en ai vu un, en tout cas. Écoutez bien ça. c'est le gars qui prie, ou la dame, enfin, le psalmiste, la communauté qui prie, il dit « Mon esprit s'interroge. Le Seigneur me rejettera-t-il pour toujours? Est-ce qu'il ne se montrera-t-il plus favorable? Sa bonté est-elle définitivement épuisée? Sa parole a-t-elle disparu pour l'éternité? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? A-t-il, dans sa colère, retiré sa compassion? » Là, ça va encore plus loin que le jusqu'à quand. C'est-tu terminé? Je me dis, ce qui fait ma souffrance, c'est que la main droite du Très-Haut n'est plus la même. Je me rappelle la manière d'agir de l'Éternel. Oui, je veux me souvenir de ses miracles passés. Je réfléchis à toute son activité. Je veux méditer tes hauts faits. Ô Dieu, tes voix sont saintes. Quel Dieu est grand comme Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Je ne sais pas si vous avez remarqué comme un changement. Peut-être pas, mais peut-être que vous voyez quelque chose ici. Ce que moi j'appellerais le déclic de la grâce. Je ne sais pas si quelqu'un aimerait partager. Est-ce que tu vois quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te frappe dans ce psaume? Oui, alors, avant, c'est que je vis comme frustration. Et au verset 12, je me rappelle la manière d'agir de Dieu. Donc, on peut imaginer que le psalmiste, à un moment donné, sort la Bible et se met à lire, sort les Écritures, et se souvient des promesses de Dieu, des actions de Dieu, et se met à réfléchir à qui Dieu est. Et un changement de perspective arrive. Donc ça, c'est une des manières qu'on peut inviter Dieu à nous donner le déclic de la grâce dans notre prière. Quand on sent que Dieu est silencieux, retournez à la Bible. Écoutez Dieu. Ça peut être aussi par les encouragements que nous donne un autre chrétien ou une autre chrétienne. Ça peut être aussi ce que le Saint-Esprit nous souffle dans le cœur. Ce qui est important, c'est de se souvenir qu'à mesure qu'on apprend à persévérer dans cette prière, à traverser les silences de Dieu sans se décourager, à croire que la grâce de Dieu va venir, non seulement pour répondre à la prière, mais pour m'aider à prier, en revenant à sa parole, en s'ouvrant à l'Esprit, on va recevoir ces déclics de la foi. Et aussi, on va grandir. Dans ces silences de Dieu, on est en train de grandir. Devenir plus comme Jésus dans notre manière de prier. Devenir plus comme Jésus dans notre manière d'avoir la patience, d'être fidèle à Dieu dans la difficulté. Une autre chose qu'on pourrait rajouter, c'est que quand on prie pour quelque chose, un trésor qu'on veut que Dieu nous donne, à la longue, on devient moins attaché au trésor lui-même et plus attaché à Dieu lui-même. C'est Dieu notre plus grand trésor. Amen. Alors, je vais terminer. On voit dans le psaume 13 que oui, on croit à ce Dieu qui va répondre à nos prières. Il est puissant et il veut répondre et il peut répondre et il va répondre. Mais notre réalité, c'est qu'on va passer par des périodes de silence. Et on va avoir envie de nous lamenter et c'est correct de le faire. Mais n'oubliez pas cette leçon. Dans ma vie de prière, le silence de Dieu ne doit pas me décourager. C'est un silence qui me fait grandir. Et je vais y découvrir Dieu. J'aimerais vous proposer un exercice à la maison. Ce n'est pas obligatoire. Donc, j'ai besoin de deux personnes pour donner à chacun une carte index. Oh, merci, Chadal. Et, oh, merci. Et cette carte, tu peux l'utiliser pour ce que tu veux, mais moi, je te propose d'écrire sur cette carte ta requête de prière, peut-être celle pour laquelle tu as le plus envie de te lamenter. Donc, si tu te sens prêt, si tu veux, écris sur cette carte quand tu reviens à la maison une requête de prière. Et dans ta prière, juste souviens-toi de ces trois choses. Premièrement, tu as le droit de prier jusqu'à quand? Jusqu'à quand, Seigneur? Je t'invite aussi à prier. Donne-moi la persévérance pour ne pas arrêter. Donne-moi aussi, au bon moment, le déclic de la foi. Même avant que la réponse à la prière arrive. Est-ce que c'est bien? Vous comprenez? C'est bon? On va terminer avec cette exhortation de l'apôtre Pierre qui nous parle de la patience. Et merci beaucoup. Après quoi, on va prier ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande beauté, il nous fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante. Et c'est ce qui fait votre joie, même si maintenant, puisqu'il le faut, vous êtes pour un peu de temps attristé par diverses épreuves. Ainsi, la valeur éprouvée de votre foi, beaucoup plus précieuse que l'or, merci, aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je vous invite à prier avec moi. Merci, Père, pour ces psaumes de lamentation qui nous apprennent à prier. Oui, c'est vrai que nous vivons souvent de belles victoires. Mais ces psaumes nous rappellent que dans beaucoup de longues périodes de notre vie, nous devons persévérer dans des requêtes qui doivent durer par la patience. Et Seigneur, nous te remercions que tu purifies, tu fais grandir notre foi comme si c'était de l'or durant cette période. Et moi, je te prie pour chaque personne ce matin qui prie pour quelque chose d'important et qui a besoin de ta patience. Aide ma sœur, aide mon frère et donne-lui cette bouffée de grâce, ce déclic de la foi pour prier avec une nouvelle énergie. Nous te prions ensemble, au nom de Christ. Amen.